VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
C'est Eric Manirakiza en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Ravi d'être avec vous et bienvenue dans cette édition 17h30 temps universel. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui du lundi 11 septembre 2017. Voici d'abord le sommaire. Au Togo, l'opposition appelle à de nouvelles manifestations dès demain. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade renonce à siéger à l'Assemblée nationale. 16e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis se rappellent de l'attaque d'Al-Qaïda sur les tours du World Trade Center New York et sur le Pentagone. L'ouragan Irma, moins destructeur que prévu, mais a provoqué l'évacuation de millions de personnes et privé des millions d'autres d'électricité en Floride. Retrouvez Nicolas Pidon pour les sports et Didi Dico pour la Uniteco juste après le journal. Je vous le disais dans les titres, le président américain Donald Trump a rendu hommage aux près de 3000 victimes des attentats du 11 septembre 2001. Il a assuré que l'Amérique n'oublierait pas et ne se laisserait jamais intimider. Au même moment, une minute de silence était également observée à Ground Zero à New York. Des milliers de personnes se sont réunies devant les deux immenses bassins noirs construits en lieu et place des tours jumelles. En présence du maire de New York, Bill de Blasio, et de son prédécesseur Michael Bloomberg, le vice-président Mike Pence s'est rendu en Pennsylvanie pour la même commémoration. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition. La coalition de 14 partis d'opposition au Togo a appelé aujourd'hui ses militants et la population à de nouvelles protestations dès demain pour demander le départ du président Faure Gnassingbé et des réformes constitutionnelles. C'est le même collectif qui avait organisé les manifestations massives de la semaine dernière. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kai Lawson.
Les 14 formations politiques regroupées au sein des forces démocratiques étaient présentes à cette conférence de presse. Un signe pour montrer l'union de l'opposition que ces partis ont encore martelé à l'occasion. L'opposition togolaise veut toujours maintenir la pression. Elle vient d'annoncer à Lomé une série de manifestations qui débutent ce mardi. Georges Kouessin, président du parti Santé du Peuple.
Nous avons demandé aux populations de se présenter demain mardi, le 12, à 8h, à l'Assemblée nationale, pour réclamer le retour à la constitution originelle de 1992.
Un meeting est prévu le vendredi 15 septembre et les 19 et 20 prochains, des marches avec les mêmes revendications, le retour à la constitution originelle de 1992 et le départ de Faure Gnassingbé. Kai Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Sénégal, l'ex-président Abdoulaye Wade ne siégera pas à l'Assemblée nationale. Il a démissionné de son poste de député le 30 juillet. Wade avait dirigé une des coalitions de l'opposition législative. Les précisions de Abdourahmane Dia.
Je m'étais présenté à la compétition uniquement pour soutenir mon parti, le Parti démocratique sénégalais, et notre coalition, explique Abdoulaye Wade dans sa lettre de démission. Il avait pourtant activement pris part à une campagne émaillée d'incidents et multiplié les attaques contre son successeur Macky Sall. L'ancien président de 91 ans a renoncé à son poste de député et sera remplacé par son suppléant sur la liste qu'il dirigeait et qui a obtenu 19 sur les 165 députés du Parlement. Selon des analystes, M. Wade cherchait à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale pour l'opposition afin de faire voter une amnistie pour son fils et ancien ministre Karim, condamné en 2015 à 6 ans de prison pour enrichissement illicite, ce qui lui permettrait de se présenter à la présidentielle de 2019. Gracié en juin 2016 par le président Macky Sall, Karim Wade réside depuis lors à l'étranger et son éligibilité pour le scrutin de 2019 fait l'objet de débats au Sénégal. Un autre absent de marque de la rentrée parlementaire de jeudi sera le maire de la capitale, Khalifa Sall, en prison pour détournement de fonds présumés depuis plus de 6 mois.
Abdourahmane Dia. Et en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a désigné hier Henriette Diabaté pour diriger le parti présidentiel, le RDR. Monsieur Ouattara a créé la surprise en déclinant la proposition des cadres militants du RDR de reprendre la tête du parti. Il est devenu président d'honneur. Nous allons le suivre Dans la seconde partie de cette édition, le nord de la RCA broie de nouvelles violences. Des groupes armés se sont affrontés ces derniers jours à Batangafo, dans la préfecture de Louham. Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées, de nombreuses autres blessées et des bases des ONG pillées. À Bangui, les précisions de Freeman Sipila.
Selon des sources locales contactées par VOA Afrique, tout serait parti de l'assassinat vendredi dernier d'un employé de l'ONG Solidarité par des ex-Séléka. Situation aussitôt récupérée par des anti-Balaka, déclenchant ainsi les hostilités. L'interposition des casques bleus et de la MINUSCA n'a pas pu calmer la situation, mais a plutôt boosté la tension. Conséquence, plus de 10 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tuées, de nombreux autres blessés, et la ville s'est vidée d'une partie de ses habitants. L'hôpital appuyé par Médecins sans frontières a été saccagé. Les bases des ONG, Conseil danois pour les réfugiés et Solidarité systématiquement pillées. À Bangui, le chef de la MINUSCA s'insurge contre l'attaque sur des casques bleus et des humanitaires. Parfait, Onanga Anyanga.
C'est contre les principes humanitaires. On ne peut pas, même dans la guerre, on ne peut pas détruire, on ne peut pas pratiquer la politique de la terre brûlée. On ne peut pas, parce qu'il faut qu'il y ait toujours des hommes et des femmes qui restent, même dans la guerre. On détruise l'outil humanitaire qui a fait en sorte que aujourd'hui, la Centrafrique est devenue le pays le plus dangereux pour les travailleurs humanitaires.
Pour le moment, les ONG internationales quittent Batangafo, ville devenue de plus en plus dangereuse pour les humanitaires. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Nouvelle attaque meurtrière en Somalie. Au moins 16 personnes ont été tuées après une attaque des combattants d'Al-Shabaab contre la ville de Beled Awo. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'attaque a commencé à l'aube. Les combattants Shabab ont pris d'assaut à trois endroits différents la ville de Beled Awo, située sur la frontière Kenya-Somalie. La première attaque a visé une base militaire à environ 6 km de Beled Awo. Le maire de la localité, Mohamed Osman, a rapporté à VOA que les assaillants ont utilisé une voiture piégée. Ils ont par la suite entamé une série de tirs nourris, obligeant les soldats de la base à traverser la frontière pour s'habiter au Kenya. Après avoir anéanti la base militaire, les Shababs sont entrés dans la ville et ont attaqué le commissariat principal. Là, deux civils ont été tués, selon Mohamed Osman. La troisième attaque a ciblé la mairie de Beled Awo. Le maire Mohamed Osman rapporte que les explosifs ont détonné dans l'immeuble qui abrite le bureau du maire, causant des dommages. Les soldats kenyans ont enchaîné des tirs et la surveillance aérienne avec des hélicoptères pour empêcher les combattants Shabab de franchir la frontière. Hier, un attentat suicide dans le centre de la Somalie, ayant fait au moins 4 morts et 13 blessés, a été revendiqué par les insurgés islamistes Shabab.
En Égypte, une attaque a fait au moins 18 morts dans le nord du Sinaï. Selon le ministère de l'Intérieur, une voiture a explosé au passage d'un convoi des forces de sécurité dans la ville de Bil al-Abed, dans le nord de la péninsule.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ONU a réagi à l'annonce par l'administration Trump de mettre fin au DACA, le programme empêchant l'expulsion des jeunes immigrés sans papier. Zeid Raad al-Hussein, au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, espère que le Congrès américain va trouver une solution permettant de sécuriser le statut des Dreamers. Écoutons-le.
Je suis préoccupé par la décision du gouvernement américain de mettre fin au DACA, le programme de protection des jeunes immigrés sans papier, dans un délai de 6 mois, malgré son impact positif sur les vies de plus de 800 000 jeunes immigrés, ainsi que sur l'économie et la société américaine. J'espère que le Congrès va légiférer de manière à donner aux anciens bénéficiaires du DACA un statut légal durable.
Zeid Raad al-Hussein, au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Le pape François a demandé également à Donald Trump de permettre à des centaines de milliers de jeunes sans papier de rester aux États-Unis. Le souverain pontife a mis en question les qualités de défenseur de la famille avancées par le président américain. Arracher quelqu'un à sa famille n'apportait rien de bon ni pour les jeunes ni pour la famille, a-t-il estimé. Le Conseil de sécurité de l'ONU va voter ce soir sur de nouvelles sanctions drastiques contre la Corée du Nord après un nouvel essai nucléaire. Ce texte inclut un embargo pétrolier progressif. Washington a cependant dilué un projet de résolution beaucoup plus sévère à l'égard de Pyongyang pour tenter de vaincre plutôt les réticences de Moscou et Pékin. Les présidents français Emmanuel Macron et sud-coréen Moon Jae-in ont appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à l'unité face à son voisin, la Corée du Nord. En Espagne, les séparatistes catalans s'apprêtaient cet après-midi à défiler massivement à Barcelone pour la fête de la Catalogne. Cet événement se tient à 3 semaines d'un référendum d'autodétermination interdit par les institutions espagnoles. Et l'opposition russe, l'opposition libérale, a revendiqué une progression électorale inhabituelle à Moscou. C'est en dépit d'un paysage politique largement dominé par le parti du Kremlin dans l'ensemble de la Russie, après des scrutins locaux boudés par les électeurs dimanche. Et le ministère allemand des Affaires étrangères a fait état de nouvelles interpellations d'Allemands en Turquie. Berlin a parlé d'un couple d'origine turque et laissé planer la menace à terme de placer le pays sur une liste noire pour les touristes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, signée Tilly Diko.
Importante saisie de diamants en Tanzanie. Selon l'AFP, le gouvernement a choisi de nationaliser ces diamants d'une valeur estimée à 29,5 millions de dollars après avoir accusé la compagnie britannique Petra Diamonds, propriétaire à 75% de la mine, d'en avoir sous-évalué la valeur. Les autorités tanzaniennes ont indiqué que les documents de Williamson Diamonds déclaraient une cargaison de 14,7 millions de dollars, alors que la valeur réelle des diamants, dont le poids aurait été délibérément sous-évalué, était de 29,5 millions de dollars. La Guinée signe un accord de 20 milliards de dollars avec la Chine. Selon Reuters, il s'agit d'un accord cadre qui établit l'octroi de concessions minières guinéennes à des entreprises chinoises en échange de financement d'infrastructures. Les fonds seront décaissés par tranches successives entre 2017 et 2036. L'accord prévoit plusieurs projets parmi lesquels une raffinerie d'alumine et 2 mines de bauxite situées près de Bofa, une ville à l'ouest de la Guinée. Au Cameroun, le taux de croissance du PIB chute à 1,1% au premier trimestre 2017, rapporte l'agence Ecofin. Selon l'Institut national de la statistique, les faibles résultats du début de l'année 2017 attestent d'un ralentissement de l'économie camerounaise.
Et nous passons directement au sport avec Nicolas Pino. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence avec cette veillée d'armes avant la phase de poule de la Ligue des Champions qui démarre demain en Europe.
Elle démarre dans le groupe A, toujours leader de la première ligue en Angleterre. Manchester United accueille le FC Bâle, champion de Suisse depuis 8 ans. Une réception dont devront se méfier les Red Devils qui pourront compter sur Romelu Lukaku, auteur d'un but ce week-end lors du match nul de partout à Stoke City. Autre match de ce groupe A, Benfica qui accueille le CSKA Moscou. Dans le groupe B, le Paris Saint-Germain, après son recrutement pharaonique en déplacement chez le Celtic Glasgow, Neymar sera la vedette pour permettre à son nouveau club de remporter enfin la Ligue des Champions. Autre match, Bayern Munich contre Anderlecht. Dans le groupe C, le petit poussé Karabakh d'Azerbaïdjan se déplace à Chelsea. Chelsea qui va faire tourner son effectif. C'est ce qu'assure aujourd'hui son entraîneur Antonio Conte. Le meneur de jeu vedette Eden Hazard devrait notamment être sur le banc. Et surtout au stade olympique, l'AS Rome qui accueille l'Atlético Madrid. Le vice-champion d'Italie se méfiera d'Antoine Griezmann. Dans le groupe D, le feu d'artifice de cette première journée. Au Camp Nou, le Barça accueille la Juventus Turin. Les Blaugrana et leur nouvelle recrue Dembélé auront à cœur de montrer qu'ils sont toujours des grands d'Europe. En face, la Juventus Turin, finaliste malheureux de l'édition 2017, voudra montrer qu'elle a de l'ambition. En fin dernière rencontre, l'Olympiakos du Pirée contre le Sporting Portugal.
Et pour l'Afro Basket 2017, Nico, pas de match aujourd'hui avant les quarts de finale, n'est-ce pas?
Ils auront lieu jeudi à Tunis, Nigeria, Cameroun, Sénégal, Angola, Maroc, Égypte et Tunisie, RDC.
On va terminer avec le tennis. Avantage de Rafael Nadal pour la première place mondiale en fin de saison.
En remportant l'US Open hier, Rafael Nadal a conforté sa première place mondiale. Roger Federer aura bien du mal à détrôner l'Espagnol d'ici la fin de la saison. A noter qu'au Masters de Londres en novembre prochain, il pourrait y avoir plusieurs néophytes.
Et c'est tout pour les sports. Merci Nicolas.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manilakiza, pour développer les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, Henriette Dangri-Diabaté a hérité hier le RDR, Rassemblement des Républicains, le parti au pouvoir. Le président Ouattara est devenu président d'honneur. Pour comprendre l'enjeu de ce rebondissement à la tête du RDR, Ekia Badou, adjoint à Abidjan, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Bruno Koné.
Nous savons qu'il a pleine confiance en Madame Diabaté. Ça a été l'une de ses plus proches depuis le début de l'aventure du RDR. Il se connaissait bien avant même que le président ne soit Premier ministre. Ils s'apprécient mutuellement. Et nous avons également le plaisir de connaître un peu Madame Diabaté, bon, qui est une femme remarquable. C'est une brillante intellectuelle, c'est une historienne accomplie, reconnue. Elle a milité comme il le fallait, elle a toujours été très brave, elle a fait la prison pour le président de la République. Et j'allais dire, tous les ingrédients sont réunis pour que le président lui fasse cette offre, parce qu'il a confiance en elle et qu'elle est capable, sans aucun doute, d'assurer pleinement cette fonction-là.
Alors, vous parlez de tous les éléments, les ingrédients réunis. Mmh. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a également insisté sur l'alliance avec le PDCI d'Henri Conan Bédié en vue de l'élection présidentielle de 2020. Que pensez-vous de ce choix pour le parti et pour la Côte d'Ivoire?
Mais nous sommes nombreux à penser que cette alliance doit vivre. Premièrement, que cette alliance doit même se renforcer. Le PDCI et le RDR ont à peu près la même vision. Ce sont des partis libéraux. Ce sont des partis qui défendent la mémoire du président Fotboigny. C'est deux partis oufouettistes. Donc, le parti, donc le RDR est le plus proche aujourd'hui en Côte d'Ivoire et sans aucun doute le PDCI. Et chacun perçoit bien l'intérêt de cette alliance qui donne arithmétiquement la majorité au RHCP. Si cette alliance continue de se renforcer, sans aucun doute, le RHCP sera là encore longtemps et gouvernera comme il le fait aujourd'hui avec responsabilité. Dans l'intérêt des Ivoiriens, il continuera à faire progresser notre pays en avant.
C'est très clair ce que vous nous expliquez. Ça balaie d'un revers de main les anciennes guerres entre les deux figures de ces partis.
Il n'y a jamais eu de guerre. Il n'y a jamais eu de guerre. Il peut y avoir des incompréhensions, surtout alimentées par l'entourage. On considère aujourd'hui que ces deux personnalités qui sont des hommes d'État ont compris que l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt des Ivoiriens, c'est qu'elles travaillent ensemble.
Comment expliquer l'absence de Guillaume Soro au Congrès?
Je n'ai pas de commentaire. 100% des militants du RDR n'étaient pas au Congrès.
Bruno Koné, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ivoirien.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Sénégal, la Société nationale d'électricité Sénélec a lancé une nouvelle filiale dénommée Aquilé et spécialisée dans la maîtrise énergétique. Le projet Aquilé a d'abord été porté et développé par deux experts sénégalais, Amadou Li et Samba Laobendiaye. Formé au Sénégal jusqu'au bac et ayant évolué dans des sociétés de référence en France et au Sénégal, ces deux cadres supérieurs veulent aujourd'hui mettre leurs compétences et savoir-faire au service du développement social et économique de leur pays. L'association des services informatiques et énergétiques a ainsi donné naissance à une société technologique de services énergétiques. C'est ce qu'explique Seydina Abagay à Dakar.
Grâce à une solution informatique, Aquilé SA va aider les ménages et les entreprises à comprendre, maîtriser et réduire le montant de leurs factures d'électricité. Ceci dans le but de leur faire gagner en pouvoir d'achat et en compétitivité, comme l'indique Amadou Li, directeur général de Aquilé.
Aquilé a vocation à aider à maîtriser les consommations d'énergie avec la finalité d'arriver à réduire sa facture d'électricité si possible, à minima, si on ne peut pas, au moins qu'on puisse éviter qu'elle n'augmente sans qu'on ne comprenne pourquoi elle augmente. Donc voilà un peu, vraiment il n'y a pas de limite, c'est tout le monde. On a dit tout à l'heure que c'est pour les gens qui avaient Internet, ça c'est la première version. Nous sommes en train de travailler sur des versions où même ceux qui n'ont pas Internet chez eux, ils pourront également l'avoir.
Aquilé offre également de nombreuses perspectives à la Société nationale d'électricité, comme l'explique Mohamed. Mahmoudou Makhtar Cissé, directeur général de Sénélec.
On ne peut pas en permanence naturellement être dans une logique d'une baisse du prix de l'électricité. Il faudrait également envisager d'actionner un autre levier qui est celui de l'efficacité énergétique pour aider les Sénégalais dans leurs habitudes de consommation à maîtriser leur consommation, à réduire ses consommations et donc à diminuer la facture de l'électricité par eux-mêmes, par leur comportement.
Akili permettra à ses clients de suivre leur consommation de manière détaillée à tout instant depuis n'importe quel endroit du monde où ils auront accès à Internet, un joyau technologique à la portée de toutes les bourses.
Le coût est variable parce qu'en vérité, ça dépend de combien on peut vous faire gagner. Celui qui paye 100 000 francs ou celui qui paye 1 million ou comme on l'a vu tout à l'heure, celui qui paye 50 millions de factures d'électricité, on lui installe le même système. Il est entendu qu'on ne peut pas facturer le même prix à tous ces gens-là. Donc aujourd'hui, le modèle, on peut dire que c'est à partir de 2 000 francs par mois. Mais 2 000 francs par mois jusqu'à une certaine limite, dépendant de combien vous payez. On ne va pas exposer ici le détail de notre modèle économique. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un, par exemple, qui a une facture de 50 000 francs par mois, pour 2 000 francs par mois, il peut avoir accès à Akili sans aucun problème.
En devenant filiale de la Société nationale d'électricité du Sénégal, Akili permet à cette dernière d'entrer dans une nouvelle ère. Un apport apprécié à sa juste valeur par le directeur général de Sénélec.
Donc c'est un outil éminemment révolutionnaire qui participe à la diversification de nos activités pour accroître la valeur ajoutée de ce que nous faisons parce que nous ne pouvons pas être que dans l'urgence de la production et de la distribution de l'énergie. Si une société veut se développer, si une société veut avancer, si une société veut faire des pas de géant, forcément une industrie comme Sénélec doit s'inscrire dans un schéma d'innovation.
En phase pilote depuis plusieurs mois, Akili est désormais disponible pour le grand public. Initialement lancée au Sénégal, cette nouvelle société technologique spécialisée dans la maîtrise énergétique espère bientôt se tourner vers le marché international. Sédina Abagui, à Dakar, pour VOA Afrique.
Et Kabadou avec vous dès 18h30 en temps universel pour votre émission interactive à votre avis. À l'issue du 3e congrès ordinaire du Rassemblement des Républicains qui s'est achevé ce dimanche 10 septembre, le président ivoirien Alassane Ouattara a renoncé à la présidence du parti. C'est Henriette Dagré Diabaté, une des figures du mouvement, qui a été désignée présidente du RDR à sa place. Alassane Ouattara a également insisté sur l'alliance avec le PDCI d'Henri Conan Bédié en vue de l'élection présidentielle de 2020. Que pensez-vous de ces choix pour le parti? Comment expliquer l'absence de Guillaume Soro au congrès? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct à 18h en temps universel au 001 202 205 26 33. Je répète, 001 202 205 26 33 ou rendez-vous sur www.voafrique.com.
Au Nord Kivu, moins de 10% des enfants ont des actes de naissance, d'après le dernier rapport de l'UNICEF. C'est ainsi que depuis l'année dernière, l'UNICEF RDC, en collaboration avec la justice congolaise, donne des jugements splittifs, surtout aux enfants nés de viol, aux orphelins de guerre et aux ex-enfants soldats recrutés de force par les groupes armés. Plus de 1300 enfants recensés par l'UNICEF ont bénéficié de ce document fondamental dans le territoire de l'Ushuru, dans l'est de la RDC. Le reportage est signé Charlie Kasseleka.
Parmi eux, il y a des ex-enfants soldats, un phénomène très courant dans cette région qui regorge de plus d'une dizaine de groupes armés et qui recrute souvent par mode d'enlèvement. Patrick, un pseudo donné à ce jeune homme de 16 ans pour sa protection, il est parmi ces enfants victimes, forcé de participer aux activités criminelles de la rébellion rwandaise des FDLR. Aujourd'hui, il a d'autres orientations comme il vient de recevoir son document qui approuve sa nationalité congolaise. Il veut surtout continuer avec ses études.
Quand tu arrives dans ce groupe, on te donne directement un autre nom. J'ai été recruté de force dans la rébellion de FDLR. J'y ai passé 4 années, j'ai été blessé par balle sur mon œil. J'ai maintenant 16 ans et je veux continuer avec mes études et je pense que ce document m'aide pour prouver ma nationalité congolaise.
L'Organisation des Nations Unies pour la protection de l'enfance, UNICEF RDC, qui a facilité ses audiences et qui assure l'intégration sociale de ses enfants, se félicite et veut continuer pour aider plus d'enfants dans la même situation. Monsieur Ile-de-France est administrateur protection de l'enfance zone Est de la RDC pour UNICEF.
Pour le Nord Kivu, l'enquête qui a eu lieu en 2012-2013 a démontré effectivement qu'il n'y a que 7% des enfants du Nord Kivu qui avaient leurs actes de naissance. C'est un taux très très bas. Et donc, il faut effectivement qu'on puisse mettre en place des dispositifs qui leur permettent d'avoir des actes de naissance après les 90 jours qui sont prévus par la loi.
La cause principale de cette situation reste l'ignorance des parents, mais surtout la situation des conflits dans ces vastes territoires situés à plus de 75 km au nord de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Le président du tribunal de paix de Rutshuru explique.
Depuis l'installation du tribunal, en 2013, après la guerre du M23, les parents se sont plaints qu'ils manquent les actes de l'état civil. Les enfants qui viennent de bénéficier des actes de l'état civil aujourd'hui de naissance, qui sont au nombre de 1600. Oui, les enfants qui mangent entre 0 à 17 ans. Et c'est le travail qui vient de commencer. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de guerres ici à Rutshuru à répétition.
La guerre, le chômage et l'absence de l'autorité de l'État dans certains coins de ces territoires a changé les modes de vie. Marie-Jeanne n'a pas revu son jeune garçon kidnappé depuis 4 ans maintenant, alors que la famille avait payé la rançon demandée par les ravisseurs.
On avait donné la rançon demandée, mais 4 ans aujourd'hui, sans aucune nouvelle de mon fils. La situation a changé avec le phénomène kidnapping de voyageurs. Le mauvais état de la route, il n'y a plus de clients et beaucoup de gens ont abandonné leur champ suite à l'insécurité.
Les mauvais états de la route et sur la nationale numéro 2 vient encore intensifier les problèmes et ne facilite pas les affaires pour ces vendeurs à la sauvette. Charlie Kasereka, depuis le territoire de Rutshuru, pour VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Il y a 16 ans, le département américain de la défense, le Pentagone, a fait l'objet d'un attentat terroriste. Le même jour, les agents d'Al-Qaïda ont également attaqué et détruit les tours jumelles du World Trade Center à New York. Une troisième attaque a été déjouée in extremis lorsqu'un groupe de passagers à bord d'un Boeing détourné vers Washington s'en est pris aux terroristes. L'avion s'est écrasé dans un champ en Pennsylvanie. Le bilan de ces attaques, plus de 2900 morts aujourd'hui. L'Amérique se souvient donc de cette tragédie. Les forces du régime de Damas et les combattants soutenus par les États-Unis poursuivent leur offensive sur Deir ez-Zor. Il s'agit de la dernière province de Syrie à être majoritairement aux mains de l'État islamique. Les autorités irakiennes détiennent plus de 1300 femmes et enfants de djihadistes de 14 nationalités différentes. Ils se sont récemment rendus aux forces kurdes. En Afghanistan, un patient en fauteuil roulant a assassiné une kinésithérapeute espagnole travaillant pour la Croix-Rouge dans le nord du pays. Deux soldats américains et trois civils ont été blessés après une attaque près de la base aérienne militaire américaine de Bagram, proche de Kaboul. Un kamikaze au volant d'une voiture piégée a foncé dans un convoi militaire étranger. Les talibans ont revendiqué cette attaque qui s'est déroulée dans le nord de l'Afghanistan. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Lionel Runanira Gahima, à la console, Wojtek, alias Hightech. À la présentation, Eric Manirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Profitez de votre vie. Elle vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. À bientôt. Je vous retrouve à 19h30, temps universel, pour la troisième édition.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.